ಸಾನಿ, ಅದು 615 ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೊರಬರ್ತದೆ.
'22, voilà le FIC, Festival International de Cinéma. Non, non, pas du tout. Bien que l'affiche de ce 22e Festival International du Documentaire à Marseille proclame haut, fort et en couleur que tout ça, c'est du cinéma, c'est bien le FID qui déploie sa programmation de films, fiction et documentaires, La Mano en la Mano, et c'est du 6 au 11 juillet. Et c'est en public et en direct de La Criée que nous vous proposons, comme chaque soir, ce magazine de la rédaction à l'écoute des réalisateurs invités et de leurs films. Ciné, docu, peu importe, en tout cas une dimension internationale du festival, plus que jamais affirmée, dans les compétitions et les écrans parallèles, en témoigne la programmation intitulée « Une autre histoire du cinéma mexicain » à laquelle nous allons particulièrement nous intéresser pour ce second FIDMAG. Si les élucubrations juridico-diplomatiques autour de l'affaire Florence Cassé ont fait tourner en guacamole l'année du Mexique en France, il est heureux en tout cas de constater qu'on va pouvoir quand même découvrir que la culture mexicaine ne se résume pas au lieu commun d'un folklore et que le cinéma mexicain peut nous étonner par son lyrisme, sa plastique d'image, sa puissance poétique qui n'ont rien à envier à ceux de leurs grands voisins nord-américains. Sur ce plateau du FIDMAG, on accueille Andrea Busman, réalisatrice de Aquel cuyo rostro no irradie luz, celui dont le visage n'éclaire pas, présenté en première mondiale. Andrea Busman est accompagnée de Nicolas Pereda, qui est auteur de l'image et du son sur ce film. On accueille aussi Michel Lipkes, qui est réalisateur et programmateur de l'écran parallèle Une autre histoire du cinéma mexicain, et on évoquera en sa compagnie son regard légèrement décalé sur les productions des studios mexicains. Enfin, le FIDMAG, ce sont aussi des chroniques, des reportages, des sorties de salles proposées par la fine équipe de nos chroniqueurs, aujourd'hui Julie, Lucie et Sylvain. Sans plus attendre, car nos invités doivent rejoindre tout à l'heure l'Agora pour une rencontre en public, avant l'histoire du cinéma mexicain, tout de suite, une actualité avec celui dont le visage n'émet aucune lumière, en compagnie d'Andrea Busman, sa réalisatrice, et de Nicolas Pereda, crédité de l'image et du son, je le rappelle, mais qui est réalisateur lui aussi. Ce film est en compétition pour cette 22e édition du FID, c'est un premier film et il a bénéficié du soutien du FIDLAB. On évoquait cette idée, cette articulation entre cinéma et documentaire en introduction. Dans ce film, c'est à la fois l'un et l'autre, de la fiction, un document, c'est la vraie vie à travers le cinéma. Peut-être avant d'évoquer votre film, Andrea et Nicolas, votre regard sur le cinéma mexicain, est-ce que vous avez des films cultes ? Alors, on est en train d'attendre que Valérie Ozouf traduise cette question à Nicolas et à Andrea. Nicolas Pereda.
Okay, I think in the last sort of 10 years or so, there's been a great movement of new Mexican cinema that probably we could say started with the first films of Regadas.
Ces 10 dernières années, une nouvelle vague de cinéma mexicain s'est développée en commençant avec Regadas.
And then there has been a lot of young people like Amat Escalante and Pedro González Rubio and many others.
Et bien de nombreux jeunes cinéastes comme Pedro González Rubio.
And many others that have sort of changed a bit the way we make movies in Mexico.
Et de nombreux autres qui ont bouleversé nos habitudes, notre façon de faire du cinéma au Mexique.
Un jeune cinéma mexicain qui est sinon en rupture avec les traditions ou les films de genre, mais qui sait quand même trouver sa propre voix. Parlons de celui dont le visage n'éclaire pas. C'est un fragment d'un poème de William Blake. La version complète, c'est celui dont le visage n'éclaire pas ne deviendra jamais une étoile. Un vers un petit peu sentencieux. Et en tout cas, ce vers donne son titre à ce film. En effet, ceux qui interprètent ce film, ce ne sont pas des stars, ce sont des gens ordinaires, ce sont des gens usés, dans un lieu ordinaire, un lieu usé aussi. Unité de lieu, dans ce film, huis clos, le typique et l'universel se rejoignent dans cette espèce de bar qui pourrait être partout, au fond. On se demande même si au fond ce bar c'est un lieu ou c'est un non-lieu. Andrea Busman.
The location itself exists, and it does. It is a clandestine bar in Mexico City, in the center of the city.
C'est un décor réel qui existe. C'est un bar clandestin dans la ville de Mexico.
And the film that you see in the movie is actually Michel's film.
Et le film qui est en train de se tourner est en fait celui de Michel.
And Michel found the location through a friend, the bar itself, and I mean, there's not much to say. I mean, it's there. It could be anywhere in the world, but I think there's something that's very Mexican about it, like a cantina in the center of the city, closed down, run down, a very nostalgic place, nostalgic people.
C'est un lieu qui effectivement pourrait se trouver ailleurs dans le monde, mais en même temps, il a quelque chose d'unique, vraiment lié à la ville, une vieille cantine. C'est un lieu qui incarne pour elle une certaine forme de nostalgie.
Une nostalgie qui est magnifiée par la lumière de ce film. Évidemment, avec un titre pareil, celui dont le visage n'éclaire pas, on peut s'imaginer que la lumière a une importance toute particulière. Une lumière en clair-obscur, mais une lumière qui, au contraire, met tout à fait en relief les visages, les personnes. Je parlais à l'instant du décor de ce film, mais cette lumière, elle est avant tout là pour servir d'écrin aux personnages et aux visages qui sont très beaux. Sur la lumière de ce film, Nicolas Pereda.
Mainly the lighting is what Michel's crew was doing, because we couldn't interfere too much. But what we tried to do was to go to the places that fit the characters, because the idea of the film was to portray the experience of these extras of the movie. So it was nice when they're left in the total darkness in the background, and they still talk, but you don't see image, or suddenly the image is overblown while they're trying to light. So we had to play with all the elements that are happening while during a movie shoot.
En fait, la lumière est davantage celle du chef opérateur du film de Michel que celle de Nicolas lui-même, comme il le précise, étant donné que ce film se situe pendant le tournage d'un autre film en parallèle. Et en fait, comme il s'agit d'éclairer des figurants qui sont souvent dans l'ombre, finalement, il y avait un parti pris autour de la mise en lumière qui reste dans l'ombre, qui est mise en lumière, alors qu'il s'agit de petits rôles ou de figurants dans le film de Michel.
Un film étonnant que ce film a à bien des égards. D'abord parce que on verra tout à l'heure, il y a une mise en abîme de tout le cinéma dans ce film, mais aussi parce qu'il est quelque part le détournement d'un autre film. On vient de l'apprendre là, celui que tourne Michel Lipkès. Alors peut-être sur comment ça s'est fait, cette rencontre, cette invasion de ton plateau par une autre équipe de tournage. Raconte-nous comment ça s'est passé, Michel Lipkès.
Moi, j'ai une amitié avec Nicolas, Andrea, depuis quelques années. Je m'apprêtais à tourner mon film donc, dans le mois de septembre de l'année dernière. Et à un moment, j'étais avec Nicolas chez moi et je lui montrais les photos des locations et les photos éventuelles du casting, qui était un très très long casting qui a été élaboré dans le centre-ville de Mexico. Et on a retrouvé comme vraiment plus de 100 personnes, d'où on a choisi une vingtaine en total en ce qui concerne mon film. À partir de là, je crois qu'il était assez bouleversé, Nicolas, de voir ses visages tellement expressifs et ses espaces. Et du coup, il m'a demandé qu'il voulait faire le making-of et j'ai accepté.
Et comment où en est ce film finalement? Est-ce qu'il est terminé aujourd'hui de tournage? Il est en cours de montage?
Non, le film et le montage image est fini et je commence la post-production de son quand je reviens au Mexique.
Peut-être pour la prochaine édition du CID?
Ouais, pourquoi pas, peut-être.
Qui sait, on a hâte de le voir en tout cas. Il y a déjà un titre qui se dessine?
Pardon ?
Il y a déjà un titre pour ce film.
Malaventura.
Malaventura.
Si.
Mésaventure.
Mésaventure. Oh. Oui.
C'est dans un registre particulier, ce film. Ça va être les mésaventures de qui ?
C'est du cinéma contemplatif. Et c'est un film sur la vieillesse et le Fiume, le nom de la cantine. Et c'est le cœur du film, quoi. C'est un peu un endroit qui magnétise le personnage envers lui.
Revenons à Aquel cuyo rostro no irradie luz, le film de Andrea Bussmann. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est un film étonnant parce qu'il y a tout dans ce film. Il y a des aventures humaines, il y a des intrigues policières, il y a des chansons, il y a des vies comme des scénarios, il y a un casting de lecteurs. Au fond, il y a tout le cinéma dans ce film, mais pas devant la caméra, derrière. Vous pensez, Andrea, que tout le cinéma est derrière la caméra ?
No.
Non.
I mean, in this case, yes. I mean, but it was also very much a focus for me. So I was intrigued by the casting story of Michel. I have an anthropology background.
En fait, Andrea a une formation en anthropologie. Elle n'estime pas que l'ensemble du cinéma se situe derrière la caméra, mais dans ce cas précis, oui, effectivement, elle était intriguée par le processus de casting du film de Michel.
And so for me, the event that Michel was creating through his film, by casting these people that are non-actors from the streets, got me thinking a lot about the possibilities of what can be done. But it's...
Et en fait, l'événement suscité par ce casting atypique de personnes qui n'étaient pas des acteurs à la base a été pour elle une source d'inspiration.
But it's a very strong also look at cinema and the medium of film.
C'est un regard en profondeur sur le cinéma en tant que médium, sur le film.
And so many of my choices at the bar when we were shooting revolved around that as well. So not just the gentleman I was interviewing, but that medium of film as well. As you say, the ending of a casting is kind of interesting because that was not my intention, though it's been read often that way. The ending is not a casting. A lot of people think it's a casting.
Le fait que tous les partis pris formels ont découlé de cette observation première, et en fait, la fin n'était pas supposée se dérouler ainsi.
Le film se termine par une lecture à plusieurs voix d'un même texte, poème de William Blake que je citais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous aviez imaginé à l'origine qui a donc changé avec cette scène ?
I didn't choose the poetry of Blake. Michel did. So there's a scene in his movie where one of the characters, a gentleman in a bar, reads the poem. What intrigued me watching Michel film that process was not only the poem itself, right, the Proverbs of Hell, like the particular poem from the book, but it was an opportunity for me to speak more about this fiction-documentary hybrid.
En fait, elle n'a pas choisi le poème. Cette séquence fait partie du film de Michel. Mais ce qui l'a intéressé, c'est qu'à travers ce poème, il était possible d'explorer davantage la question de l'hybridité poreuse du cinéma et du documentaire.
C'est réalisé effectivement de manière éblouissante et on comprend bien que le FID ait pu appuyer à travers le dispositif FIDLAB ce film parce que ça correspond tout à fait à l'esprit qui est développé dans ce festival de rendre poreux ces univers du documentaire et de la fiction. Un film qui est, on l'a dit tout à l'heure, un film en regard d'un autre film ou en marge d'un autre film. Tout à l'heure, Michel Lipkes disait que c'est un peu quelque chose comme un making-of. Pour autant, ça va très au-delà d'un making-of, Andrea Bussmann.
Yeah. Is it not a making-of? I mean, it's not a making-of in the sense that most making-ofs, the focus is the film they're doing a making-of, right? And Michel's film is very much an event, a backdrop. Right.
Ce n'est pas un making-of dans le sens où d'habitude un making-of se concentre principalement sur le film principal qui est en train de se tourner.
I never had the intention when I discussed with Michel to come on the set to document what he was doing.
quand elle a discuté avec Michel, elle n'avait jamais l'intention de capturer une trace de ce qu'il était en train de réaliser.
I wanted to see if something could come about with through the casting of these men in a sort of very anthropological lens, using the film as an event itself.
Dans un angle, une perception anthropologique, elle était plutôt en train de suivre ce qui pouvait potentiellement se dérouler de cet événement casting atypique, comme nous l'avons dit précédemment.
Alors, tout à l'heure, Michel Lipkes nous disait que le film qu'il est en train de tourner sera dans un registre contemplatif, disait-il. Mais c'est vrai que ce film, celui dont le visage n'éclaire pas, est lui aussi tissé de très nombreux silences, de très nombreuses attentes. Et est-ce que Andrea Bussmann, Nicolas Pereira, peut-être les deux pour cette réponse, vous pensez que le cinéma, il est dans l'attente du cinéma ? Que la vérité du cinéma, elle est dans l'attente. Sa vérité, puis son quotidien aussi. Hein. Je crois que sur un tournage, on attend beaucoup entre les prises. Sur l'importance de l'attente.
L'importance de waiting. You know, like there's a lot of silences in the film and they make you expect something.
I mean, for me, it was completely obvious because cinema is about waiting. The making of cinema is a very boring adventure, especially for people that are not working.
Pour Nicolas, c'est une évidence. L'ensemble du processus de tournage est composé d'attente.
And il précise même que c'est chiant.
And for extras is even worse because the extras are there for sometimes just to be in a corner of the frame, maybe they're not even inside the frame.
A fortiori pour les figurants qui sont là pour peut-être éventuellement apparaître dans un coin de l'image, et encore ce n'est pas certain.
Yet they have to wait there for hours and hours.
Ils doivent cependant attendre des heures et des heures.
And in a way, what we talked about and what the film is that there is the process of making a film is part of life. And being bored is part of life, and the weight of these people is reflects a lot about their lives. Not anybody can sit for hours not moving in a corner waiting to obey orders.
Faire du cinéma, c'est vivre et être capable d'attendre ainsi pendant des heures. Tout le monde n'en est pas capable. Donc finalement, ça reflétait justement l'identité de ces individus.
Like I've been in other movie sets where the extras and all the actors talk to other people, move around, have conversations. These guys, for the most part, could sit motionless for an hour and a half.
Nicolas s'est rendu sur plusieurs tournages où on voit les figurants, les acteurs, l'équipe technique bouger, bavarder, discuter, échanger. Là, ces personnes-là étaient capables de rester sans bouger des heures durant, ce qui est assez unique et singulier.
And that talks a lot about the characters and the people that they exist socially in Mexico.
Et ça en dit long sur leur personnalité, leur caractère. Également leur caractère sociologique.
Un film qui est en effet un très beau regard anthropologique, sociologique peut-être, mais avant tout humain sur le Mexique contemporain et par le biais sur le cinéma lui-même, sur sa pratique, sur ses arrières, sur ses faces d'ombre, ses parts d'ombre du cinéma. Il va falloir attendre jusqu'au vendredi 8 juillet à 16h15 et ce sera à la Criée pour revoir A quel cuyo rostro no irradie luz dans le cadre de cette 22e édition du FID. Merci à Andrea Bussmann et Nicolas Pereira d'être venus sur ce plateau. Je crois que vous allez vers une agora de nouveau présenter ce film. On va nous tout de suite accueillir une première chronique. Bonjour Julie.
Bonjour.
Alors je crois que tu es allée ce matin à la sortie d'une salle. Tu es allée voir quoi ?
Donc je suis allée voir le film Torero, un film du réalisateur mexicain Carlos Velo. Donc un docu-fiction très intéressant qui nous plonge dans l'univers de la corrida et plus spécifiquement dans le quotidien des toreros. Donc séance finie, je suis allée un peu à la rencontre du public pour savoir pourquoi ils avaient choisi ce film et puis surtout qu'est-ce qu'ils en avaient pensé. Donc écoutons les réactions.
This should be interesting. Alors j'ai choisi ce film à la lecture du résumé, parce que le cinéma, dans le résumé, il était mentionné un lien entre Louise Buñuel, et étant donné que je suis cinéphile, l'histoire de la rencontre avec cette personne et Louise Buñuel me paraissait intéressante. Je ne connais absolument pas le réalisateur, et je trouve que ce qui est intéressant justement au film, c'est qu'on ne les connaît pas toujours, et qu'on fait de très belles découvertes, et on a de très belles surprises.
C'est un film intéressant à plusieurs niveaux. Tout d'abord, je pensais voir un documentaire, et en fait j'ai vu une fiction. Plus une fiction qu'un documentaire, mais bon, ça c'est bien. Je trouve, c'est Truffaut qui l'a dit, parce que j'ai écouté le commentaire, c'est vrai que c'est un film émouvant. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les doutes des toreros. Et puis, que dire d'autre? Là, comme on sort du film, c'est pas évident. On est empreint d'image. Je trouve que c'est un film intéressant aussi pour l'histoire du cinéma. Parce que pour comprendre le cinéma contemporain, à mon avis, il faut voir beaucoup de films. Et voilà, ça m'a donné l'occasion d'avoir un autre regard sur une autre culture aussi, et sur la corrida en général.
C'est un film mexicain dont j'ai entendu parler. J'ai entendu parler du réalisateur, et cette époque m'intéresse, et notamment du Mexique. Donc là, j'ai l'occasion de le voir. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je suis dans ce festival, c'est cette rétrospective du cinéma mexicain. On vient de voir un film vraiment très émouvant, une réalité sur une réalité, c'est cette réalité de la corrida, qui la peur. On parle beaucoup de la peur, on voit surtout la peur, et surtout des toreros qui tombent, qui se font encorner, et c'est une réalité. Je trouve que c'est assez intelligent, parce que c'est pas un film pro ou contre la corrida, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est un homme face à sa vie, son destin, sa famille, les honneurs, etc. Et ce taureau, il a peur. On parle beaucoup de peur dans ce film, plus que de victoire, etc. C'est ce qui est intéressant.
Je trouve que c'est du cinéma assez classique, évidemment, vu l'année de production. Mais je trouve qu'il y a une espèce de suspense. Il y a une vraie histoire, il y a un vrai personnage, il y a une situation, il y a une analyse aussi de la pauvreté au Mexique, qui est la raison pour laquelle ce garçon veut être toréador. Donc ça donne bien cet aspect politique, on peut dire, social et politique. Moi, je ne suis pas une fan de tauromachie, enfin, je trouve ça... c'est un peu spécial comme art, mais c'est un art. On le voit du côté de l'humain, bien sûr, parce que le personnage a peur, vraiment peur. Il risque sa vie à chaque corrida, et beaucoup, ils laissent leur peau.
Je pense qu'il y a au moins deux festivals dans le festival, dans le FIED, et particulièrement cette année. Il y a le côté patrimoine, le côté, c'est des films anciens, et le côté film contemporain, quoi. Là, c'est un film de patrimoine. Je trouve bien de faire des sélections par pays comme ça, et de revisiter le cinéma d'un pays. Là, c'est une période du documentaire qui est un peu hybride comme ça, et pas inintéressante, quoi. Il y a des trucs très empesés dans la partie fictionnelle du film, parce que c'est dans les années 50, et il y a un modèle de vie aussi à représenter. Et puis c'est la sphère du privé qui est assez difficile à filmer, donc il y a quelque chose de très... très empesé, mais la démonstration est belle, parce que nous on considère beaucoup la corrida sur le plan de la souffrance animale. Et là, c'est la souffrance humaine qui est montrée, ça je trouve ça très beau. Et de voir que c'est comme dans les autres sports, hein. C'est une façon de monter socialement très vite, et après à la fin, c'est des parvenus qui sont regardés par des riches, et les riches les encouragent à se faire tuer. Je trouve ça très intéressant comme façon de regarder la corrida. Bon, maintenant c'est qu'un pays dans la souffrance animale qui est un continent.
Oui, très intéressant, l'image est très belle, hein. Ce noir et blanc, c'est magnifique, magnifique. Moi, j'ai trouvé que c'est un film magnifique. Évidemment, comme monsieur dit, il y a des aspects un peu empesés quand on le voit, les gros plans sur sa souffrance, les gens, comme ils sont habillés, comme dans des pubs. Mais c'est pas grave, ça. C'est un beau film.
Sortie de salle par Julie Berberian, qui est allée voir ce matin Torero, un film de Carlos Velo, et a recueilli les opinions des spectateurs, apparemment des opinions très favorables à propos de ce film, et sans doute de l'ensemble de cet écran consacré à l'histoire du cinéma mexicain, qu'on va aborder maintenant avec Michel Lipkes. 8 films qui sont proposés dans cet écran parallèle, 8 films réalisés entre 1937 et 1980. Je parlais tout à l'heure, dans l'introduction de cette émission, d'un inventaire un peu décalé, parce qu'au fond, vous n'avez pas choisi de montrer, de présenter les films les plus emblématiques, les plus connus. C'est plutôt une volonté de privilégier la découverte, Michel.
Oui, absolument. Bon, déjà, il n'y a pas non plus beaucoup d'options, mais quand j'étais en train de faire un peu le parcours du cinéma, de l'histoire du cinéma mexicain, j'essayais toujours de trouver un film parallèle en relation au film dont on parlerait de façon plus évidente. Par exemple, j'ai choisi le film La Mancha de Sangre, c'est le film le plus vieux du programme de Adolfo Best Mogar, car c'est un film qui est ressurgi il n'y a pas très longtemps. Je
pense. Il vient d'être restauré en fait, il était dans un triste état.
Oui, c'est un film qui a eu une histoire très, très peu fortunée, déjà parce qu'il a été censuré à sa sortie. Puisqu'il a...
Pourquoi ?
Parce qu'il y a une partie documentaire dans le film qui fait le portrait du monde.
Dans les cabarets, dans les bordels.
Dans les bordels, il y a un peu des scènes trop sensuelles pour l'époque. Et du coup, il a été immédiatement censuré. Il est ressorti donc entre 1945 et 1950. Puis il est disparu de la circulation complètement. Il a été retrouvé par la Cinémathèque nationale. Et c'est la Cinémathèque nationale qui a donné le film à la Filmothèque de l'UNAM, de l'Université nationale autonome du Mexique, qui s'est chargée de la restauration du film. Désormais, la restauration n'a pas été menée à 100% parce que, au fait, ils ont trouvé plusieurs copies.
Il y a des séquences qui ont complètement disparu.
Oui, au fait, dans le quatrième rouleau, il y a pas de son, il y a juste l'image. Et donc, c'est l'image, son son, et juste a été sous-titré. Et dans le dernier rouleau du film, il y a du son, mais il n'y a pas d'image. Mais ce qui a été fait, c'est qu'ils ont récupéré plusieurs copies. Et ils ont fait la restauration à travers de plusieurs copies. Ils en ont tiré une, quoi.
Ce film, La Mancha de Sangre, de Adolfo Best Mogar, introduit ce que les critiques appellent l'âge d'or du cinéma mexicain. En gros, un âge qui a duré jusqu'aux années 50, la fin des années 50. Qu'est-ce qui caractérise, Michel, selon vous, cet âge d'or ? Peut-être des aspects de lyrisme, de mélodrame, d'exaltation du folklore. Est-ce que tout ça, c'est au fond l'affirmation d'une mexicanité ? Cet âge d'or du cinéma mexicain, c'est l'affirmation d'une mexicanité ?
Disons que ça affirme un Mexique très, très populaire et très, très accessible, très grand public, parce que disons que les réalisateurs qui ont construit l'identité de l'âge d'or du cinéma mexicain ont compris les codes du mélodrame passionnel mexicain. Et ça a débloqué une relation avec pas juste le public national, mais je pense avec le public international, parce que les films de Emilio Fernández et de Roberto Gabaldón à l'époque ont été présentés à la sélection officielle du Festival de Cannes, à côté des films de Fellini et de Kurosawa et de plein d'autres cinéastes de taille internationale. Donc
avec une reconnaissance de la part de la critique, les cinéastes que vous citiez, Gabaldón notamment, est un cinéaste connu, mais peut-être pas autant que ceux que vous venez de citer. On commence à redécouvrir un peu ce cinéma mexicain de l'âge d'or aujourd'hui. Michel Duplessis.
Oui, absolument. Ben, je vois qu'aujourd'hui, en France, on fait beaucoup de éditions. J'ai vu l'autre jour dans un magasin une édition du film Macario, de Roberto Gabaldón, ce qui m'a beaucoup surpris parce que ce genre de films peuvent être vite oubliés par l'histoire. Donc, juste parce que la production de cinéma aujourd'hui est tellement grande et tout va tellement vite aujourd'hui que ces films peuvent vraiment être abandonnés un peu dans la poussière. Et c'est vraiment grâce à l'initiative, grâce à l'existence d'un public intéressé et des distributeurs assez courageux, j'imagine, que ces films aujourd'hui existent dans des éditions sous-titrées en français, quoi.
Et peut-être qu'on peut aussi dégager des moyens pour restaurer des films, des chefs-d'œuvre de ce cinéma mexicain de l'âge d'or, dont il faut aujourd'hui garder les copies et pouvoir les placer et surtout les faire voir. On est toujours en direct du Théâtre de la Criée pour ce deuxième FIDMAG autour du Festival international du documentaire. Je suis en compagnie de Michel Lipkes, qui est le programmateur de l'écran consacré à l'histoire du cinéma mexicain. Alors, on vient de parler à l'instant de Taches de sang, ce premier film le plus ancien qui est proposé dans cette sélection. La tache de sang qui préfigure un genre du cinéma mexicain qui est riche en genres, en types de films. Et ce genre, ce sont les films dits de ficheras. Alors, qu'est-ce que c'est que les ficheras, Michel Lipkes?
Une fichera, c'est... Non, tu vas dans les cantinas, il y a des... C'est des prostituées. Mais c'est un peu plus que ça. Il y a quelque chose un peu plus de galant dans
la relation. C'est pas uniquement un bordel, vraiment, au sens trivial. C'est aussi un endroit où on boit, c'est aussi un endroit où on rencontre des amis.
Oui, une cantina, c'est un endroit où juste on va aller avec les amis, boire une bière. Et dans certains endroits, genre notamment dans le centre-ville de la ville de Mexico, ce genre d'endroit existe beaucoup. Il y a donc des ficheras, c'est des dames qui te sortent danser. Et à la base, c'est ça, c'est des filles qui te sortent danser et après, tu les payes pour danser deux ou trois pièces. Après, bon, ça va un peu au-delà de ça, mais à la base, c'est...
Il y a encore des ficheras à Mexico, par exemple, aujourd'hui ?
Oui, non, c'est quelque chose qui existe toujours et c'est vraiment... Il y a un endroit, par exemple, qui s'appelle le Salon San Luis, qui est un grand endroit très ocre avec des lumières rouges. Et il y a beaucoup de ficheras de tout âge et elles sont toutes habillées en rouge, et c'est vraiment comme une esthétique totale, quoi. Ça existe partout.
Dans ces films de ficheras, à la fois morale et débauche, enfin beaucoup de débauche en l'occurrence, honneur et crime, ça omniprésent, foi et monstruosité aussi, parfois, une société mexicaine, au fond, c'est une société des contraires, des contradictions. C'est ce que ce cinéma révèle de la société mexicaine, c'est qu'elle est très contradictoire. Elle est à la fois une chose et son contraire.
Oui, je crois un peu dans la superficie, la société mexicaine essaie de maintenir une image, a essayé de maintenir une image. Aujourd'hui, vraiment, on est un peu débordé face à la crise sociale qui existe dans le pays, mais on voit bien que la dévotion catholique au Mexique est tellement grande que ça va à la paire aussi un peu peut-être de la répression sexuelle. Et donc, un peu en dessous de la terre, existent tous ces mondes parallèles qui mettent en doute quoi, la superficie de ce que prétend être le Mexique, je crois.
Une autre contradiction au Mexique, c'est celle du machisme, extrêmement présent, mais en même temps d'une forme, on pourrait dire, de matriarcat. On voit dans plusieurs films, notamment Los Hermanos del Hierro, qui est un film de Ismael Rodriguez, et puis aussi dans El Profeta Mimi, qui lui est un film de José Estrada, cette réflexion sur la structure de la famille mexicaine, où à la fois on a cette exaltation de la violence, de la vengeance, du meurtre, et en même temps, paradoxalement, c'est souvent le personnage de la mère qui est confite en dévotion catholique au dernier degré, c'est elle qui est un peu la pousse au crime. Peut-être sur la structure traditionnelle de la famille mexicaine, elle est pousse au crime, Michel Lipkes.
J'aimerais pas généraliser en disant que ça marche comme ça, mais disons que l'audacité de Ismael Rodriguez et de José Estrada était basée sur un peu virer le point de vue et mettre un peu la responsabilité de cette société machiste dans la main de la mère. C'est à Los Hermanos del Hierro, c'est la mère qui met le pistolet dans ses enfants, c'est la mère qui leur montre comment tirer le pistolet pour venger la mort du père, quoi. L'absence du père et la mère qui pousse ses enfants vers la violence. Et dans le cas du prophète à Mimi, c'est juste, c'est un personnage qui a été un peu, qui a été aliéné par l'assassinat de son père depuis sa jeunesse et se voit
devenir un monstre. Ah oui, il est vraiment pas bien dans la tête.
Non, il est vraiment pas bien dans la tête et c'est vraiment, pour moi, c'est un film de monstre d'une certaine façon et c'est un film où tu vois comment.
On pense à la fois à Todd Browning et à Jacques Tati. Alors ça n'a rien à voir, mais vraiment les deux.
Oui, je vois bien du. Je vois beaucoup de références dans le film. Je vois peut-être du Todd Browning. Je vois même un peu de la belle Ferrara, quoi, qui un peu de son côté new-yorkais. Il filme cette ville nocturne hantée par des personnages un peu grotesques et excessifs, pathologiques.
Un film à voir, El Profeta Mimi. D'autres films qui ont été vus, ce sont nos chroniqueurs et chroniqueuses qui voient des films et qui en rendent compte pour nous sur ce plateau en direct. Alors Lucie, tu vas nous proposer une chronique particulière, ça s'appelle la chronique Bigou.
La chronique Bigou. La chronique Bigou.
Je vais vous parler ce soir de deux films, Ethnocidio, Notas sobre el México, de Paul Leduc, qui est présenté dans l'écran parallèle Une autre histoire du Mexique, et de Poussière d'Amérique, d'Arnaud Despalières, qui a ouvert hier soir le FID et qui concourt dans la compétition internationale. Deux films sobres qui jouent avec le muet pour dire le monde différemment. Le premier, Ethnocidio, est un film mexicain de 1976 et il prend la forme d'un abécédaire ethnologique du Mexique de l'époque, mais il résonne encore beaucoup aujourd'hui. À chaque lettre correspond un mot qui dit la condition d'extrême pauvreté de la vallée du Mezquital. Et Paul Leduc s'est basé sur les recherches de l'anthropologue Robert Bartra. On retrouve donc le procédé ethnographique de l'entretien. Alors c'est des paysans, des travailleurs qui parlent face à la caméra de leurs conditions, de la spoliation des terres par les caciques, des morts sur les chantiers, du prix des cercueils, du véritable ethnocide qu'ils subissent, expropriés de leurs terres et rendus à l'état de quasi-esclavage, agraire, industriel ou sexuel. Ces hommes et ces femmes s'adressent à la caméra d'une façon très digne et décidée. C'est un film qui regarde les hommes, qui regarde ces Mexicains, relégués au rang de sous-hommes, mais qui nous regarde nous aussi, confortablement assis dans la salle surclimatisée de la criée. Il nous regarde dans les yeux, qu'on ne peut détourner, la misère est montrée d'une façon digne et déterminée. Ces entretiens alternent avec des séquences qui sont plus contemplatives, des vues de paysages, des gros plans sur des objets, accompagnés de musique. Ces plans-là ne sont pas illustratifs, ils ont une réelle acuité, ils parlent littéralement au spectateur et sur un autre registre que celui du témoignage. Un cimetière dont on explore les détails, les eaux des égouts de Mexico, avec un très court texte surimprimé qui accompagne l'image pour dire que cette eau irrigue les plantations, intoxiquant les légumes et tuant les terres. Ces torrents d'eau souillée, marron, savonneuse, coulent sur l'écran. Ça pourrait durer 10 secondes, on aurait compris de quoi il s'agissait, et c'est vrai que tout ça c'est vraiment très moche, mais non, ça reste, plus longtemps, et on contemple alors ces trombes d'eau empoisonnées. Ça imprime notre rétine, ça hypnotise presque et ça laisse l'esprit vagabonder, se retourner sur soi et méditer. Méditer, c'est ce qu'a provoqué chez moi un autre film, Poussière d'Amérique d'Arnaud Despalières, un film fait d'images d'archives toutes tournées aux États-Unis et de carton, quelques mots blancs sur un fond noir. Inspiration, une phrase. Expiration, un extrait d'archives. Tout le long, les mots et les images alternent et dressent un portrait en kaléidoscope des États-Unis. Des phrases qui racontent des petites histoires comme des paroles glanées, des histoires de famille, des pensées, des réflexions sur ce jeune pays créé dans le sang et la sève. Le sang des Indiens décimés pour faire la place aux conquérants et la sève des arbres abattus par leurs descendants dont on voit les images surprenantes d'immenses séquoias tombant sous les coups des bûcherons pour faire se lever un empire qui culminera bientôt plus haut que les séquoias avec ses tours de verre et d'acier. Poussière d'Amérique est un film muet, mais en fait pas vraiment. S'il emprunte au cinéma muet le principe des cartons, en fait il le systématise et il le détourne, car tout au long des 100 minutes du film, c'est notre voix intérieure qui lit ses phrases par bribes, entrecoupées d'images d'archives. Et le tour de force d'Arnaud Despalières est de faire passer ce texte dans un film a priori muet par notre corps. Notre voix intérieure les lit, elle se les approprie, et elle les fait entrer peut-être de façon plus profonde que l'aurait fait un texte dit, qui entrerait par nos oreilles. Nul silence, alors, car même si tout le texte est écrit et non récité, on entend une voix, c'est la nôtre, et c'est aussi celle de ceux qui sont sur les films muets et qu'on imagine. Nul silence, car le son de ce film nous emmène aussi ailleurs. La musique originale et les musiques additionnelles, ainsi que des sons de nature, d'ambiance et d'autres sons plus abstraits, donnent aussi une dimension autre aux images et aux textes. Poussière d'Amérique plonge alors dans un rythme et une attitude méditative. On peut se laisser hypnotiser par la chute de ces grands séquoias, silencieuses, par les vues de la Terre prises par des satellites qui sont, eux, issus de cet empire qui abat les arbres, les hommes et construit des engins pour aller voir ailleurs. On est hypnotisé, comme quand on voyait les égouts de Mexico qui se déversaient devant nos yeux dans le film dont je parlais tout à l'heure, Ethnocido. Nos yeux sont comme magnétisés, mais notre esprit, lui, il n'est pas endormi. Il peut voguer sur les terrains des égouts de Mexico. Il peut voguer le long des chemins du Mezquital, le haut des immenses structures industrielles sur lesquels travaillent les descendants des peuples envahis par Cortés. Notre esprit vogue, mais surtout il est frappé par l'extrême violence de la vie de ces personnes qui comptent le prix des cercueils et tellement ils en ont besoin pour enterrer leurs enfants, leurs frères, leurs parents. Là, il est inutile de dire la résonance avec le Mexique actuel. Arnaud Despailliers nous interpelle aussi sur la violence, celle qui est à l'origine des États-Unis, non que nous le sachions déjà, mais il la met remarquablement en lumière. La séquence de fin de Poussière d'Amérique dit les paroles d'un enfant qui reproche à son père de ne pas pouvoir le connaître plus jeune. Regret de l'impossibilité de connaître le jeune homme qui était son père. L'enfant veut l'impossible, et nous aussi en fait, connaître les États-Unis d'avant la découverte par Christophe Colomb. Non pas que les recherches historiques n'existent pour nous faire une idée de ce qu'était l'Amérique précolombienne. L'enfant a lui aussi des photos de son père quand il était jeune. Mais cet âge-là est définitivement révolu. Il n'existera plus. Les forêts de séquoias n'abritent plus les Amérindiens. Il y a aujourd'hui des maisons, toutes identiques, avec des jardins, dans lesquels on creuse des piscines. Ethnocidio, Notas sobre el México, de Paul Leduc, est projeté vendredi prochain à 19h30 à La Criée. Et peut-être coïncidence, parce qu'au même moment, Poussière d'Amérique d'Arnaud Despailliers passe aussi aux variétés. Mais si vous voulez voir les deux films, il suffit d'aller à la vidéothèque du FID pour les voir, et c'est deux excellents films, à mon avis.
Juste après la chronique de Lucie, une chronique double, à la fois sur Poussière d'Amérique d'Arnaud Despailliers, mais aussi, et presque j'ai tendance à dire surtout, vu le thème de ce plateau, à propos de Ethnocidio, Notas sobre el Mezquital de Paul Leduc. Alors, à propos de registres ou de genres, on a vu que le cinéma mexicain était friand de, parfois de films de genre. Là, on est un peu au-delà de ça. On est à la fois sur un regard qui est anthropologique, mais aussi sur un regard qui est politique. Clairement, ce film Ethnocidio, Michel, c'est un film militant.
Oui, ben, Paul Leduc, au fait, il a... Lui, il était pendant le génocide de Tlatelolco en 68. Lui, il a été présent. Il a tourné tout ça dans un film qui s'appelle El Grito, le cri. Et Et bon, oui, c'est quelqu'un qui, avec les gens comme Felipe Casals, Arturo Ripstein, Jaime Humberto Hermosillo, et Jorge Fons et Maria Novaro, ben, c'est leur caractéristique, au-delà de leur talent, est une grande militance sociale. Je crois que Ethnocidio est complètement imprégné de l'esthétique propre à l'époque qui situe le film. Et comme j'ai dit...
C'est un film qui a été réalisé dans les années 70 et on peut peut-être imaginer qu'aujourd'hui le nouveau cinéma, le cinéma mexicain contemporain soit un petit peu différent dans son approche du politique. Peut-être Nicolas Pereda, est-ce qu'aujourd'hui le nouveau cinéma mexicain, les nouvelles générations que tu incarnes, quel regard elles portent sur le politique, sur l'engagement, le militantisme?
Yeah, I think we're definitely less politically committed than the generation before us.
Je crois effectivement qu'on peut dire que notre génération est moins engagée politiquement que la précédente.
But that's only if you look at politics and your commitment with politics in a maybe content-driven understanding of film.
Mais peut-être vraiment si on aborde la question vraiment du fond de l'engagement politique, c'est en ça qu'il est différent.
I think our way of approaching politics in film, in at least in my generation, is challenging the formal point of view of filmmaking.
Je crois que vraiment notre façon, la façon de notre génération d'aborder l'engagement politique, c'est vraiment en termes de forme.
And also the way of producing films.
Et c'est aussi une question de la manière dont on produit ces films.
And Mexico is a film that's driven, a country that's driven culturally by television.
Le Mexique est un pays vraiment qui fait une place très importante à la télévision.
Politics are completely controlled and shaped, and the understanding of politics of most Mexicans are through television.
Est-ce que la télévision exerce une censure de ce point de vue-là? Quels sont les codes au fond qui sont prescrits par la télévision au Mexique?
It's a different. It's this modern neoliberal type of censorship. It's not the censorship.
On peut dire que c'est vraiment une censure libérale, dans ce sens-là.
So businesses decide what's on, and if you're not part of that, then you're not on, and so that's the type of censorship.
C'est le business qui dicte la loi. C'est ce type de censure dont il s'agit.
But in a way, I think our political commitment is just as important as the political commitment of the filmmakers of the 70s.
Mais je crois que l'engagement politique de notre génération est finalement aussi important que l'engagement de la génération des 70s.
In the sense that if we're changing the point of view of what audiovisual content is.
Voilà, ce qu'on change, c'est vraiment le contenu.
Eh bien, maintenant, on va écouter une nouvelle chronique, et ça n'a rien à voir, je vous assure, avec la censure. Néanmoins, cette chronique s'intitule « La chronique coupée ». Salut Sylvain.
Bonsoir. Donc, la chronique coupée, c'est la chronique qui s'intéresse au montage. Donc, je suis allé voir aujourd'hui un film en compétition française qui s'appelle Holy Time in Eternity, Holy Eternity in Time, réalisé par Élise Florenti et Marcel Turkowski. C'est un documentaire surréel et expérimental, un portrait fantastique du Mississippi empreint de l'imaginaire de William Faulkner. Entre montage poétique et composition sonore, Élise Florenti a bien voulu nous prêter quelques clés pour aborder le montage de son film, film qui sera diffusé d'ailleurs ce soir à 20h à La Criée. Élise Florenti, bonjour. Le film Holy Time in Eternity, Holy Eternity in Time commence par une séquence de 12 minutes avec un fond noir et une voix off. Premier effet de montage dès le début du film, il y a un sous-titrage dans lequel vous avez remplacé le « je » par le « tu ».
On a tout de suite trouvé très intéressant de ne conserver que sa voix et de lui donner toute son ampleur et de permettre une écoute totale de son flow, de son histoire qu'il tenait vraiment à nous raconter, puisque c'est un homme qu'on a rencontré dans la rue qui a tout de suite remarqué qu'on n'était pas des Blancs américains. On était un peu différents. On était près des voies ferrées qui étaient abandonnées. On se promenait et puis il nous a comme ça appelés et parlés pendant une douzaine de minutes. Enfin, c'était vraiment une apparition. Et en fait, en réécoutant son texte, on s'est aperçu que, en fait, il s'adressait pas vraiment à nous. Il accentue beaucoup ce dialogue-là entre le je et le tu, entre le moi et le toi. On a voulu faire cette inversion pour signifier notre présence et notre écoute. On se manifeste, on manifeste sa présence et du coup, cette présence-là devient aussi celle du spectateur qui dit « Voilà, je suis bien dans une salle. Je t'écoute maintenant, je te regarde, je comprends ce que tu as à me dire et je te suis quelque part. Je prends acte de ce que tu veux me dire. » Voilà.
Et cette parole, vous l'avez restituée dans le montage de façon brute? Ou alors vous l'avez remontée, vous l'avez retouchée?
Alors elle est totalement chronologique. Il y a peut-être deux minutes qui ont été enlevées. Pour le reste, tout est tel quel, c'est-à-dire agencé, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas d'effet, on n'a pas du tout travaillé la voix. Voilà.
Et cette voix se décline donc pendant 12 minutes sur un fond noir. Est-ce que le noir apporte quelque chose au discours?
L'absence d'image, oui, ben, complètement. Je pense que dès le départ, on a su qu'il n'y aurait pas d'image, qu'il fallait une écoute totale. Et que justement, on aimerait tellement voir ce personnage.
On peut dénombrer pas mal de séquences dans votre film avec des apparitions et des disparitions de personnages par fondu.
Alors en fait, le Mississippi, il faut s'imaginer une campagne un peu avec quelques collines, beaucoup de forêts, quelques fermes. Et bon, il n'y a pas grand-chose, voilà. Hein. Il ne se passe pas grand-chose. Ce n'est pas comme Détroit aux États-Unis, qui est une ville industrielle. Là, c'est l'industrie du coton, en fait. Donc une industrie qui s'est arrêtée. Donc il y a des villes fantômes, enfin il y a des villes où il n'y a pas âme qui vivent. On a quand même réussi à filmer comme ça quelques présences. Et ces présences-là, elles nous sont vraiment apparues. Dans le sens où il ne se passe rien pendant une semaine. Et quelque part, à un moment donné, ben, ça se manifeste. On a enfin rencontré quelqu'un, vu quelque chose qui a donné vie à ce silence, à cette immobilité. Et je pense que ces apparitions, les disparitions... à l'image, rendre compte de façon condensée et immédiate un peu ce sentiment-là qu'on avait.
Le montage se construit comme une succession de séquences assez distinctes les unes des autres. Comment est-ce que vous avez travaillé le rapport d'un plan à un autre?
Alors ça, c'est une très grande question pour nous. Après, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le saisir, le sentir quand on voit le film. Peut-être le mieux, c'est que justement le montage soit transparent et qu'on ne s'aperçoive pas de cette structure. Mais il y a une structure extrêmement forte dans ce film. Qui est un palindrome, en fait. C'est-à-dire, on va dans un sens, puis à un moment donné, il y a un clic, et puis on va dans un autre sens. On rentre et on sort, quelque part. Si on regarde les séquences, toutes les séquences se répondent de façon presque duelle, binaire. C'est-à-dire, on a une introduction avec un groupe de cinq jeunes hommes blancs, et on finit avec... C'est pas une conclusion, parce que c'est une fin ouverte, mais on finit avec cinq jeunes hommes noirs. Et en fait, si on regarde comme ça à l'intérieur du film, ces deux séquences-là, qui sont en fait des parenthèses, on rentre dans une autre dimension par des séquences de tableaux filmés, qui nous amènent à deux phénomènes, qui sont les feux d'artifice et les lucioles, qui nous amène à deux types d'actions, qui nous amène à deux petites histoires historiques qui se sont passées dans ce pays-là. Donc il y a une voie d'archives qui est celle de James Meredith, premier étudiant noir à être rentré dans l'université du Mississippi, et puis la petite histoire du spécialiste de Faulkner qui parle de la nouvelle de l'ours. Et en fait, donc, ce sont deux voix déjà qui sont déjà enregistrées, qui existent, qui sont des archives, qui se rencontrent comme ça. Et au milieu, au centre de ce palindrome, il y a un déclic qui est le déclic d'une cassette. C'est comme si on voilà, on tourne la cassette qui est pratiquement, enfin, on est dans une autre phase et on repart.
Comment est-ce qu'on aborde un montage comme celui-ci ?
Alors le montage était extrêmement difficile à faire, mais pas du tout dans le sens où c'était douloureux. Le montage, disons la structure même du film, de savoir ce qu'on gardait, ça s'est fait en 2 semaines, 10 jours, jour et nuit, à ne penser qu'à ça, à être enfermé. Et c'était hyper important d'avoir cette rigueur-là, parce que c'est un film qui est avant tout presque comme une composition musicale. C'est-à-dire que quand on change un plan, quand on change un cut, il faut voir tout le film pour avoir emmagasiné toutes les sensations, pour arriver à ce cut-là et se dire est-ce que ça passe ou ça casse. Et c'est très, très, très compliqué parce que du coup, parfois, si on veut faire un cut à la fin, eh ben, on doit voir 45 minutes de film et juste pour sentir cette sensation-là à ce moment-là. Et personnellement, ça ne m'était jamais arrivé comme expérience au niveau du montage.
C'était la chronique coupée de Sylvain Gonzalez qui avait rencontré Élise Florenti pour son film Holy Time in Eternity. Hélas, il ne nous reste plus beaucoup de time dans notre Eternity, ou du moins pour cette émission. Dommage, parce que j'aurais beaucoup aimé parler de l'influence de Luis Buñuel avec Michel Lipkes à propos de cette histoire du cinéma. Je vais juste avoir le temps de rappeler que La mort dans un jardin de Luis Buñuel est projetée dimanche 10 à 11h45 à La Criée dans le cadre de cet écran consacré à l'histoire du cinéma mexicain. Bien d'autres projections encore, des 8 films de cet écran parallèle, tout le détail est sur le site du FID, fidmarseille.org. Merci beaucoup à Andrea Busman, à Nicolas Pereda et à Michel Lipkes d'avoir participé à cette émission, deuxième magazine du FID. Merci aussi à Valérie Ozouf et à Gaël Béréouk pour leur traduction au cours de ce magazine. Les chroniqueurs, Julie Berberian, Sylvain Gonzalez, Lucie Palanque et à la technique, Tony Regnault. Rendez-vous demain à 18h pour le troisième FID Mag de cette 22e édition du FID. Il sera animé par Marc Voiry et en compagnie des réalisateurs Philippe Grandrieux et Eric Baudelaire. Tout le programme de nos émissions, les émissions en écoute et en podcast, c'est sur radiogrenouille.com. À l'écoute de La Grenouille, restez donc, puisque dans quelques instants, à 20h et en direct, scène embarquée au festival Worldwide, ni une ni deux, La Grenouille se plie en quatre et vous emmène à 7h.